Radio Django. Vivre à Lausanne.
Bonsoir Samuel.
Bonsoir Fabien.
Tu nous proposes ce soir un débat intergénérationnel autour du climat.
Oui, alors l'état de la planète est extrêmement documenté. On ne va pas revenir sur les faits. Disparition des espèces, réchauffement climatique, déforestation, manque d'eau, perte de biodiversité. Mis à part quelques climato-sceptiques qui continuent encore de nier l'évidence, les faits sont aujourd'hui reconnus. Alors on chiffre même à plusieurs centaines de milliards de dollars le coût du réchauffement climatique pour les États-Unis, pour seulement ce pays, selon un rapport gouvernemental publié le 23 novembre dernier. Mais une fois ce constat posé, que faire face à cette urgence ?
Et pour en débattre ce soir, nous recevons les représentants de deux associations, l'une lausannoise et l'autre romande, la première réunie des jeunes, l'autre des anciens, toutes deux manifestées à Berne, et cela il y a quelques semaines.
Alors vous l'avez entendu, cette marche pour le climat se réunissait pendant la COP24. Il participait le groupe Lausanne Action Climat, fondé en 2017 par de jeunes activistes lausannois au retour d'Ende Gelände, du nom d'une action allemande de désobéissance civile qui appelle à bloquer les mines de charbon. Indignés par l'inaction ambiante, ils appellent à un changement de système avec comme outil principal des actions de désobéissance non violente. De l'autre côté, les grands-parents pour le climat sont issus d'un mouvement international lancé il y a une douzaine d'années et leur texte fondateur stipule « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos petits-enfants ».
Jean-Claude Keller, bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie de l'association romande Les Grands-Parents pour le Climat. À vos côtés, Gary Domenicioni, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes membre du collectif LAC, Lausanne Action Climat, qui réunit surtout des étudiants. Face à la situation climatique d'aujourd'hui, ça change quoi pour vous de faire partie d'un groupe ?
Ça permet vraiment de pouvoir mettre en pratique en fait, tout ce qui nous tourne dans la tête, toutes les questions qu'on se pose, de pouvoir être vraiment actif, essayer d'avoir un impact sur les décisions qui sont prises, qui tendent à exclure tout ce qui n'est pas entre 30 et 40 ans au Parlement. Et ça permet aussi de rencontrer plein de gens, de pouvoir échanger sur ces questions cruciales.
Pour vous, Jean-Claude
Keller. La même question pour vous, Jean-Claude Keller.
Alors, je pense que les aînés ont un rôle fondamental à jouer dans la société aujourd'hui, en quelque sorte d'ambassadeurs pour une mobilisation contre les risques du réchauffement climatique, en fait. Donc, je pense que c'est important d'avoir une association telle qu'un autre, un mouvement qui permettent à des gens qui sont notamment grands-parents ou qui sont à la retraite de se mobiliser aussi.
Alors Gary Domenicioni, le collectif dont vous êtes membre, le LAC, a organisé une partie de tennis à l'intérieur d'une agence de Crédit Suisse. C'était à Lausanne le 22 novembre dernier avec le slogan « Si Roger savait ». Alors c'était l'occasion pour vous de rappeler que Crédit Suisse, le sponsor de Roger Federer, continue d'investir massivement dans les énergies fossiles. Vos actions ont pour but de rendre l'extraction des hydrocarbures moralement inacceptable. Est-ce que vous avez une idée de l'impact que votre action a eu sur la banque et accessoirement sur le tennisman ?
Alors, au niveau du tennisman, nous n'avons à l'heure actuelle eu aucun communiqué de presse, aucun retour, malgré le fait que suite à notre action, beaucoup de citoyens et citoyennes ont également simplement écrit à Roger Federer ou à son manager sur Facebook, etc. Crédit Suisse a, quant à lui, porté plainte contre les activistes et contre le LAC pour l'action qui a eu lieu à Lausanne sous l'égide du LAC, mais qui a aussi eu lieu, rappelons-le, en même temps à Genève, à Bâle ainsi qu'à Zurich, menée par d'autres groupes.
Alors en Suisse, on tient beaucoup à notre confort de vie et Roger Norman, conseiller national socialiste et rapporteur de la commission sur la transition énergétique, déclarait sur la première, la stratégie 2050, ce n'est pas un renoncement, on vise une hausse de l'efficacité énergétique à confort égal, c'est une stratégie de consolidation de notre confort et de notre niveau de vie. Alors ce confort a un coût climatique, en moyenne un Suisse émet près de 14 tonnes d'équivalent CO2 par an, on est à 1,5 tonne pour un Indien ou 0,3 tonnes pour un Tanzanien. Et la moyenne mondiale se situe à 4 tonnes. Or, la planète, selon les calculs scientifiques, pourrait aujourd'hui absorber environ 2,5 tonnes de CO2 par personne, soit presque 6 fois moins ce que nous émettons à l'échelle du pays. Est-ce que vous pensez que la Suisse pourra faire l'économie d'un changement de société, Jean-Claude Keller ?
Non, Sûrement pas. Pourquoi ? Parce que quand on parle de climat, on parle d'énergie à cause du CO2. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, c'est plus de 8, presque 85% d'énergie fossile. Donc, quand on parle d'énergie, on parle évidemment d'économie. Et là, on doit bien comprendre l'économie, c'est la consommation aussi. Bon, je ne parle pas ici de la finance, mais cette consommation, elle est basée sur une extraction, donc toute une extraction de minerais. Donc tout est lié. Donc, ça veut dire que si on veut réduire notre empreinte écologique, vous venez de faire allusion au fait qu'on consomme plus qu'une planète, on va devoir toucher à notre consommation. Maintenant, la question, est-ce qu'on sera moins heureux ou... La question n'est pas là. Je crois qu'on peut vivre très bien. Moi, je viens d'une génération quand j'étais tout gamin. J'étais dans les premières années de ma vie. J'habitais Lausanne, dans un bâtiment locatif où il y avait l'eau chaude une fois par semaine et on chauffait au charbon. Je ne dis pas qu'il faut revenir à cela, surtout pas avec le charbon. Mais je veux dire, on n'était pas moins heureux. Je pense qu'on peut vivre avec moins de biens et plus de liens.
Alors, Gary Domeniconi, votre organisation, suite à l'action que vous avez menée chez Crédit Suisse, a déclaré que les banques ne sont pas indispensables. Est-ce que vous pensez qu'elles font partie du problème ?
Les banques, non seulement font partie du problème, mais sont en fait la plaque tournante, entre guillemets, du système énergétique actuel. Et c'est l'axe que privilégie le LAC dans ses actions, à savoir que les projets actuels d'extraction fossile sont de plus en plus gigantesques, de plus en plus coûteux, ont des rendements de plus en plus désastreux. Les pétroles de bonne qualité commencent à se substituer avec des sables bitumineux en Amérique, etc. Et donc, en fait, c'est des projets de plus en plus grande envergure, de plus en plus casse-gueule, si j'ose dire. Et donc, ont besoin de financements énormes, ont besoin de fonds de placement, de fonds privés, de banques qui investissent là-dedans. Et l'équation est plus ou moins simple. Si les banques refusent d'investir dans des projets désastreux, ces projets ne peuvent pas avoir lieu. Il n'y a que les banques qui ont le capital financier suffisant pour financer de tels projets à l'heure actuelle.
Mmh. Alors Jean-Claude Taylor, les grands-parents pour le climat ont fondé une commission scientifique. Vous qui êtes physicien, est-ce que vous pensez qu'il faut encore parler des problèmes climatiques dans leur globalité ou plutôt se concentrer sur des solutions qu'on peut localement mettre en œuvre ?
Alors, je ne pense pas que le problème se pose avec des « ou », mais il se pose avec des « et », en fait. Il y a beaucoup de gens encore qui dénoncent le fait que l'homme soit à l'origine du réchauffement par l'effet de serre du CO2. Donc, ça veut dire qu'il faut parler de ces questions globales, expliquer aux gens quels sont les impacts... qu'est-ce que c'est que le réchauffement, même parfois, il faut l'expliquer à des gens. Donc ça, c'est tout un aspect qui est au niveau de l'information pour que la connaissance sur ces questions-là puisse diffuser dans la population. Mais en même temps, il faut aussi s'occuper des solutions.
Vous imaginez, Jean-Claude Keller, aujourd'hui, que les gens ne sont pas assez informés chez nous de ces problèmes de réchauffement climatique, parce qu'on en parle quand même quasiment quotidiennement dans la presse, dans les médias.
Oui, mais vous avez encore plein de climato-sceptiques. Par exemple, Jean-Claude Pont vient de sortir un bouquin l'année passée, ou il y a deux ans, je crois que c'est l'année passée, « Le vrai, le faux et l'incertain », qui est un condensé de contre-vérités. Voilà.
Gary ?
Oui, et au-delà du fait que peut-être on en parle pas assez, je pense surtout qu'on en parle mal. On en parle extrêmement mal.
Il faudrait faire quoi pour en parler mieux ?
C'est-à-dire que la question écologique est toujours abordée de manière superficielle, est toujours ramenée systématiquement à la consommation personnelle et non pas aux responsabilités des entreprises, aux responsabilités de l'État. Et elle est toujours axée, en fait, dans un sort de schisme absolu de la réalité, à savoir qu'on nous parle d'écologie, mais quand on creuse vraiment à quel point est-ce qu'on est dans l'urgence, à quel point est-ce que l'effondrement climatique est grand, cette nouvelle-là est très mal relatée, en fait.
Alors justement, les médias se focalisent beaucoup aussi sur les solutions techniques qui seraient censées résoudre la quadrature du cercle, et notamment sur les innovations industrielles, mais assez peu sur les changements de vie qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la douche chaude une fois par semaine. Est-ce que vous, dans les lettres que vous avez envoyées aux 24 heures dans le courrier des lecteurs, justement suite à la réaction, suite au livre du climato-sceptique Jean-Luc Pont, vous appeliez à la simplicité volontaire, voire à la frugalité. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une piste sérieuse de résolution du problème ?
C'en est une, en tout cas. Par exemple, depuis une année et demie, je roule avec un vélo solaire, par n'importe quel temps, quand je dois me déplacer tout seul. C'est moins confortable, parfois, c'est plus long, enfin souvent,
Mais c'est un vélo, c'est un vélo électrique
avec des panneaux photovoltaïques ouais.
sur le vélo.
Oui. J'ai fait déjà 4000 km avec. Okay. Je veux dire, c'est pas une solution pour monsieur et madame tout le monde aujourd'hui, mais le monde de demain peut être beaucoup plus frugal et beaucoup plus joyeux. Mais à ce sujet, j'aimerais quand même juste soulever une chose. Pierre Calam, qui est le président de la fondation Charles-Louis Mayer pour le progrès de l'homme, il s'est beaucoup penché sur ces questions de transition. Et il dit, pour qu'une transition puisse avoir lieu, il faut 4 types d'acteurs. Il faut des innovateurs, des théoriciens, des généralisateurs et des régulateurs. Alors, on n'a pas le temps de développer ici, mais c'est super intéressant parce que des innovateurs, on en a tout plein. Des théoriciens, on commence à en avoir. Des généralisateurs, c'est le GIEC, c'est les États. Ça fonctionne encore pas très bien. Les régulateurs, c'est toute la taxation carbone. Donc, ça prend du temps, tout ça. Je ne crois pas qu'il faut s'impatienter non plus, mais il faut agir. Mais ça va prendre du temps.
Gary ?
Et si j'ose me permettre, quelque chose que je trouve... presque dangereux ou dommageable, qu'il faut toutefois faire attention avec ces idées de frugalité, etc. La première était dans la manière de formuler la question, qui peut être quelque peu pernicieuse. Est-ce une stratégie, le low-tech, est-ce une stratégie de diminuer notre consommation, etc. C'est pas une stratégie, c'est un constat, on va pas pouvoir faire autrement. La planète ne supportera pas un autre niveau de vie. La question est, il va falloir drastiquement changer les choses, comment on va le faire? Et la deuxième chose est toujours que ce rapport à la frugalité, à la consommation personnelle, il vient d'un idéal de vendre à la population, regardez comme c'est bien d'être frugal. On le sait, ça se voit, ça ne marche pas. Comment peut-on convaincre quelqu'un d'avoir une vie volontairement frugale à la limite de l'ascèse quand on est entouré de dogmes sociaux, quand on est entouré de publicité, de marketing, de supermarchés et d'appels à la consommation? Donc, en fait, on risque de tomber dans un classisme, dans des taxes, non pas sur les entreprises, mais sur les produits, et on risque de rester dans ce schéma-là où c'est toujours finalement le peuple et la classe ouvrière qui...
Alors vous, comment vous portez ce débat-là et comment vous arrivez à sensibiliser votre entourage à cette question de manière positive ou constructive ?
Quelle question, excusez-moi.
De la nécessité d'une frugalité, de la nécessité d'un changement de mode de vie ?
La nécessité d'un changement et d'une certaine forme de frugalité, elle est là. Le problème est toujours ce rapport qu'on a entre baisse du niveau de vie, ou en tout cas bas niveau de vie, entre guillemets, et frustration. Et on ne peut pas concevoir en aucun cas une société dans laquelle tous les produits existent et la population est une sacro-sainte qui rechigne à utiliser des produits à bas coût, qui rechigne à utiliser des produits polluants pour n'être que le consommateur parfait. Non, il faut une société qui ne permet pas la production de ces biens-là. S'il n'y a pas de produits qui ont un aspect carbone absurde, s'il n'y a pas de produits suremballés, eh ben, il y a simplement... pas de pression à mettre sur le consommateur. Ce n'est pas le consommateur qui doit se serrer vis-à-vis de l'entreprise, parce que ça ne marchera pas. Les produits les moins chers seront toujours systématiquement ceux sur lesquels seront nivelés les salaires, le fameux panier type, et c'est sur ces salaires-là qu'on s'ajustera. Et donc, le peuple n'a pas le choix que d'acheter la première qualité.
Alors du coup, là, vous renvoyez la balle dans le camp des politiques avec des décisions un cadre législatif pour... rendre obligatoire cette manière de fonctionner. On voit qu'aujourd'hui, on en est assez loin. Est-ce qu'aujourd'hui, un des pères du mouvement des grands-parents pour le climat a déclaré « Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes ». Alors, je vous pose la question en janvier 2019. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes optimiste ?
Je vais vous répondre comme ça. Je suis un optimiste angoissé, mais un pessimiste serein. Je dis encore une fois, on ne fera pas l'économie de changer son mode de pensée. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, si vous pensez de la même façon, vous obtenez toujours ce que vous avez obtenu. Donc pour obtenir autre chose, il faut faire autrement. Mais comment faire autrement si vous pensez toujours pareil? On ne fera pas l'économie d'un changement de façon de voir les choses. Et c'est ça qui va être difficile. Et ça passera probablement aussi par les prix. Donc ça va poser l'autre problème de la répartition des richesses provenant de la production et de la consommation. Donc c'est un problème complexe qui touche l'économie, l'écologie et le social. Donc ça va prendre encore du temps. Ça s'appelle le développement durable.
Et vous êtes, Gary, vous êtes optimiste en janvier 2019?
Alors, optimiste, pessimiste, c'est plus, c'est des choses très abstraites. Il faut faire attention, à mon avis, avec les deux. Le pessimiste, c'est celui qui se dira à quoi bon? et à quoi bon, ça mène finalement à ne rien faire à terme, alors qu'à l'inverse, l'optimiste, il faudra toujours faire attention à ne pas vouloir voir que les bonnes nouvelles et à occulter absolument toutes les mauvaises nouvelles. Donc, ni optimiste ni pessimiste, disons simplement réaliste, voir en face ces réalités-là et après appliquer sur ces réalités-là un calque de joie, mais optimiste, pas dans le sens de dire tout va aller bien. Il y aura des choses qui vont se passer, à nous de faire pour qu'elles soient bien.
Alors une dernière question sur vos deux places dans la généalogie. Gary, vous êtes dans une génération qui hérite d'un monde qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous éprouvez un sentiment d'injustice du monde dans lequel dont vous héritez?
Totalement, de la manière dont ça a été géré avant, de la manière dont c'est géré actuellement. Et j'ai eu, je le reconnais, j'ai eu une chance et un privilège d'avoir accès à un patrimoine culturel, à des études, à un environnement social qui m'a permis de pouvoir remettre en question les choses en place et de pouvoir questionner ces choses-là, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est surtout ça la chose qui, à l'heure actuelle, pourrait me donner le plus de rogne ou de rancœur, c'est de voir, en fait, finalement, ces millions et ces milliards de vies volées, de vies ruinées, qui ne pourront pas sortir de ce carcan-là et surtout de voir l'injustice face à laquelle nous devrons nous battre.
Alors, je termine avec vous, Jean-Claude Keller, sur l'autre bout de la génération. Vous êtes donc, vous, partie des grands-parents. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, en tout cas, vous avez l'âge d'en avoir. Est-ce que vous éprouvez un sentiment de culpabilité face à ce monde que vous laissez à vos petits-enfants?
Non, on ne peut pas parler en termes de culpabilité. Je me sens une responsabilité, oui. Mais parce que vous parliez d'injustice, mais si on l'interrogeait maintenant, un Indien qui vit à Bombay, lui, il trouverait injuste la façon dont on vit. Donc c'est très relatif, ces questions d'injustice. Encore une fois, nous qui avons vécu les Trente Glorieuses, on doit être responsable. Ça veut dire qu'il faut s'interroger sur ces questions-là et aider à la transition. Mais cette transition, elle va être compliquée parce qu'elle va toucher le porte-monnaie aussi à un moment donné. Donc, comment répartir les richesses de façon correcte?
Pour vous, dernière question, Gary Domeniconi, pour vos générations futures, est-ce que ça implique quelque chose? Est-ce que vous réfléchissez honnêtement à avoir des enfants? Quel sera le monde que vous allez leur laisser?
Alors, c'est une question toujours épineuse, effectivement. Je pense, à titre personnel, vraiment que c'est vraiment un choix qui doit être dicté par personne et qui doit être personnel. Se dire dans quel monde est-ce que je vais laisser mon enfant évoluer, c'est une question que probablement tout le monde s'est toujours posée. Et faire d'un enfant aussi un vecteur de l'amour qu'on veut véhiculer et de l'espoir qu'on veut véhiculer peut être aussi une opportunité. Je ne pense pas que ce soit salutaire de toujours réfléchir en termes de qu'est-ce qui pourrait lui arriver de mal, mais aussi qu'est-ce qui pourrait arriver de bien. Et c'est une question à laquelle il faut que notre génération se pose, ça c'est sûr.
Alors tous les deux, à travers les groupes auxquels vous appartenez, vous cherchez à agir sur la situation, sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez réellement pouvoir stopper ce réchauffement climatique ou est-ce que vous, intérieurement, vous vous préparez déjà à l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle?
Alors l'effondrement, on ne peut pas le balayer dans un verre de manche, ça c'est sûr. L'économie actuelle, elle est prédatrice des cinq sphères environnementales. La lithosphère, c'est le manteau rocheux, la surface. L'hydrosphère, l'eau. La cryosphère, la glace. L'atmosphère. Bref, les conditions de vie sur Terre sont en train de s'éroder. Et donc, la situation est préoccupante de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire cette transition? Il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire, si vous voulez. Mais ce que je constate, c'est que les évolutions ne sont jamais linéaires. Et nous, on pense linéairement, en fait. Penser à la fumée passive, on a eu l'impression qu'en l'espace d'une année ou deux ans, tout était réglé, on interdisait la fumée passive et que ça a été accepté. Mais ça ne s'est pas passé en une année, deux ans, parce qu'il y avait les 20 ans qui précédaient avec les études qui ont montré l'effet cancérigène, etc. Donc, tout d'un coup, les choses sont là et le changement peut arriver. Et je pense que sur la question climatique, il y a énormément de choses qui ont été faites, notamment par le GIEC. Et on est, je pense, sur les deux décennies prochaines, à un moment charnière, vraiment charnière.
Un moment charnière, c'est ce qu'on retiendra notamment de cet entretien. Gary, un dernier mot en 20 secondes.
Oui, alors effectivement, comme on dit, l'effondrement sera peut-être inévitable, en tout cas fortement probable. Il ne faut pas oublier par contre que chaque geste qu'on peut faire, chaque poche de liberté, chaque espace de discussion qu'on peut créer, chaque petit progrès qu'on peut avoir va se chiffrer en termes de dizaines, de millions de morts évitées à l'aune de cet effondrement-là. Donc il est fondamental d'agir maintenant, radicalement, pour être efficace.
Merci beaucoup Gary Domeniconi. Je rappelle que vous êtes membre du collectif LAC, Lausanne Action Climat. Et merci à vous Jean-Claude Keller, vous faites partie de l'association romande Les Grands-Parents pour le Climat, qui était justement ce débat croisé intergénérationnel. Merci beaucoup à vous deux, une belle soirée.
Merci
beaucoup. Pardon.
À très bientôt. Merci Samuel également pour la préparation et la réalisation de ce sujet très complet que vous pouvez retrouver également sur notre site en réécoute sur www.django.fm. Voici un petit peu de musique avec Armand Amar, To Warn the World. Armand Amar sur Radio Django, Radio La Fabrique à 18h25. On passe à la Rose des Vents.